una stonda di spartira e di cultura, un'emissione di André Casabianca.
Michel Corotti, nous vous accueillons aujourd'hui avec un grand plaisir parce que nous allons parler de votre dernière parution, hein, Piazza Porta.
Merci André, voilà. Le plaisir est partagé.
Voilà, et donc c'est votre quatrième livre.
Oui, le quatrième roman historique.
Voilà. Et donc, vous aviez écrit avant, après Petite Italie, Les mauvais sujets, Entre chien et loup. Alors, quelle est la différence ou quelles sont les choses qui ressemblent aux trois autres livres? Ou alors, c'est quelque chose de totalement, pas inédit, mais surprenant, enfin, je sais pas.
Alors, il y a un lien, bien sûr, parce que chaque roman aborde une période de l'histoire de la Corse peu connue, me semble-t-il, peu explorée. Dans Petite Italie, il s'agissait de voir la Corse par les yeux d'un consul fasciste. À ma connaissance, ça n'avait pas été fait. Et la découverte de Bastia comme une petite Italie, voilà, donc c'était le propos, et aussi de parler des Italiens de Bastia à l'époque. Et j'avais épluché énormément les journaux d'époque à la recherche d'anecdotes, etc., de faits divers qui pouvaient donner le ton de cette époque. Ensuite, pour les mauvais sujets, c'était une année de la vie du très jeune Mirabeau, mais Bastia était là bien présente, et alors qu'on s'imagine la Corse soulevée comme un seul homme contre les Français, eh bien, je trouvais intéressant de montrer que Bastia, ville génoise, s'accommodait fort bien de la présence française et qu'elle y trouvait même un réel intérêt. Les familles bourgeoises, les familles riches voyaient s'ouvrir devant elles des perspectives de négoces et puis aussi d'avancement de leurs enfants, de titres de noblesse et toutes sortes de choses très plaisantes. Et donc, il me semblait que là aussi, ça pouvait être un regard différent sur la Corse. Et puis, entre chien et loup, s'attache à la période milanaise de la Corse. Et là aussi, on a peu écrit sur cette période. Et donc, on se retrouvait avec un seigneur Cortin qui décide d'aller prêter allégeance le premier au duc de Milan, en lui offrant un chien corse, c'est-à-dire ces redoutables molosses chiens de guerre.
Généralement, c'est comme ça.
Oui. Voilà. Donc, dans tous les cas, un moment de l'histoire de la Corse peu exploité, et puis aussi, si on y réfléchit plus, si vous voulez, une réflexion chaque fois sur les rapports entre la Corse et l'Italie. Et pour les mauvais sujets, les rapports entre la France, la Corse et l'Italie. Mais voilà, toujours mettre en miroir. Et dans ce quatrième roman, la visée est encore plus nette, peut-être, puisqu'il s'agit vraiment de voir la Corse par les yeux d'un jeune Italien et de ses difficultés d'adaptation à la vie à Sartène, dans une petite ville très, très renfrognée, très frileuse, très archaïque dans ses modes de vie, alors que ce jeune Italien, Carbonaro, au épris d'idéal, a vécu dans les grandes villes d'Italie, il connaît Turin, Milan, Florence, Luc, et il va y avoir comme une sorte de choc, là, de culture, non pas parce qu'il est italien et qu'on est en Corse, ça ne pose pas de problème, mais parce qu'il a des idées d'avant-garde et il se retrouve dans un milieu beaucoup plus archaïque.
Alors, ce sont les années 1830,
oui.
1840, parce que c'est important à le situer déjà, votre livre. Et alors, vous dites à un moment donné que cette révolution dans les années 1830 a rebondi sur Sartène d'une façon violente. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment cela se fait-il? Voilà.
Alors, c'est en effet, le jeune homme arrive en 1829, le temps qu'il prenne ses marques, voilà qu'éclate à Paris la révolution des Trois Glorieuses. Donc, bien entendu, on ne sait pas les choses immédiatement sur les réseaux sociaux à l'époque ou à la télévision, mais on sait les choses. Et même s'il faut une semaine pour être au courant, on est au courant. Or, il faut dire qu'il y a une ébullition des peuples en 1830, que c'est une révolution, on va dire, européenne, aussi bien en Belgique, en Italie, en Pologne, etc. Donc cette effervescence et puis cet écho des Trois Glorieuses, de ces journées révolutionnaires, arrive jusqu'à Sartène. Or, à Sartène, le maire qui est en place, un Rocazer, gouverne cette petite ville, le député est du même bord, et ce sont plutôt ce qu'on pourrait appeler, toute proportion gardée, des carlistes, c'est-à-dire des tenants du roi déchu. Et les autres familles bourgeoises qui aspirent au pouvoir, qui aspirent à conquérir la mairie, eh bien, elles se retrouveraient assez dans le nouveau roi. Et donc, c'est l'occasion pour eux de montrer au grand jour leurs ambitions. Alors, ils vont le faire en entraînant avec eux ce qu'on peut appeler le peuple, c'est-à-dire les gens qui ont un souvenir de ce qu'a été la Révolution et qui ont des aspirations à plus de liberté. Et on va ressortir le drapeau bleu, blanc, rouge et on va se dire, ça y est, les trois couleurs, la Révolution est là. Et comme dans toute la France, on institue des gardes nationales dans les villes pour maintenir un ordre, on va pas dire républicain, puisque une monarchie a laissé, hélas, la place à une autre monarchie. Mais enfin, pour marquer cette présence du peuple, eh bien, Sartène, c'est la même chose. On se dit, voilà, il va y avoir une garde nationale, et elle va faire une ronde, et elle va faire le tour de Sartène. Et là, ça ne se passe pas comme ça, parce que les tenants de l'ancien régime, principalement les Rocazera et les Durazzo, qui ont construit leur maison sur des terrains qui, à l'origine, sont privés, leur appartiennent, disent « personne ne passera devant nos maisons ». Et surtout pas la garde nationale, ce ramassis de vauriens, de gens qui veulent révolutionner les choses. Et c'est comme ça. En plus, si vous voulez, bien sûr, derrière tout ça, il y a des luttes de clans, il y a des luttes familiales, il y a des intérêts, il y a, etc.
C'est un roman d'aventure, ça, oui.
Oui, c'est, oui, quelque part un western.
C'est vrai que c'est une sorte de thriller, un western.
Un western, absolument.
Parce qu'on dit toujours roman historique, bien entendu. Hein. Mais disons que là, il y a une aventure, même il y a des choses sérieusement violentes quand même.
Absolument, absolument. Voilà. Quand la garde nationale prend cette petite rue très très étroite qui va déboucher devant le cirque des maisons, mais c'est comme en effet dans le Far West, lorsqu'on est dans un défilé et que par exemple les Indiens occupent les hauteurs. Ouais. Voilà, et donc c'est, oui, ça va être violent.
Alors, votre personnage principal, il s'appelle comment? Alors, son prénom, c'est, je crois que c'est Giovanni.
Giovanni.
Voilà, il est jeune, 19 ans, c'est ça?
Il est jeune, 24 ans.
24 ans, oui,
il est tout jeune Giovanni Bonuccelli, il vient d'une famille très respectable, d'artisans, et lui-même a un métier, il est horloger. Et donc, dans sa première hypothèse, il s'installe à Sartène avec son art et il continue à s'occuper des belles montres qui le fascinent. Or, Sartène a déjà un horloger. Et l'oncle qui l'accueille, le cousin qui l'accueille, lui dit « Mon garçon, un horloger pour Sartène, ça suffit. Donc, tu vas être maçon ». Et une part de sa désillusion vient en effet de ce qu'il faut, oui, frotter ses belles mains habiles aux pierres granitiques rugueuses du Sartenay.
Alors, c'est ce que l'on voit sur la couverture. La couverture peinte et dessinée par Edith Guidoni. C'est un horloger, quoi, quelque part, donc avec des rouages. La couverture est, je trouve, très, très belle. Et je voulais vous demander que vous avez quand même été entouré, hein, déjà par votre éditeur, Alain Piazzolla, et puis après, vous avez eu d'autres personnes qui vous ont aidé, on va dire, quand même.
Oui, ben comme chaque fois, lorsqu'il est question alors d'histoire, Alain Piazzolla est en effet un éditeur d'histoire en Corse, et donc ça s'étend au roman historique en l'occasion. J'ai eu accès aux documents de base qui racontent cette violente révolution sartenaise et ses conséquences, surtout juridiques. Il y a un document qui a été mis en ligne et c'est François-Michel Durazzo qui m'a indiqué ce document. Philippe Peretti, qui est toujours de bon conseil lorsqu'il s'agit de contexte historique, ne s'est pas privé de me signaler certains événements qu'il ne fallait pas que je déforme ou que je rate. La couverture est d'Edith Guidoni et en effet, elle a beaucoup de talent. Béatrice Castoriano a révisé le texte. Oui, chaque fois qu'on édite un livre, eh bien, c'est à un moment donné une petite aventure collective. Et ça fait du bien parce que sinon, c'est un long travail solitaire.
J'ai fait une digression parce qu'il ne faut quand même pas que l'on dévoile le roman en entier.
Non, bien sûr. Il
faut faire très attention. Je crois que ce qui est aussi particulier, c'est votre travail, mais sur les phrases elles-mêmes. J'ai trouvé qu'il y avait une grande richesse au niveau des adjectifs, au niveau... vous avez fait un gros travail d'écriture, dont certes d'archives, mais d'écriture, et c'est ce qui m'a vraiment enthousiasmé, voilà.
Ah ben merci beaucoup. C'est un roman que j'ai écrit dans sa première version pendant la période du Covid, quand nous nous sommes tous trouvés enfermés chez nous. Et mais vous voyez, le temps a passé, donc il a été écrit, réécrit, changé, repris. Et j'ai un côté un peu obsessionnel. Alors, si mon obsession a porté ses fruits et qu'il n'est pas trop mal écrit, ben, j'avoue que j'en suis ravie.
Et justement, comment vous avez réparti le côté archive et recherche et le temps de l'écriture? Comment vous avez jonglé entre ces deux éléments créatifs?
C'est jamais facile parce qu'il y a quelque chose d'un petit peu fastidieux, il faut bien le dire, à tout ce contexte historique, je veux dire, l'assimiler vraiment. En plus, là, c'était des histoires de famille. Et vous aurez remarqué que tous les personnages portent les mêmes noms, pour ainsi dire. Il y a je ne sais combien de Rocaser, de Duras, de Pietri, etc. Ce qui fait qu'on s'y perd et que j'ai fait moult croquis et gribouillis dans des...
Sur un tableau,
Oui, pour essayer de saisir tout ça.
Oui.
Mais une fois qu'on y est arrivé, qu'on a cette matière, qui est quand même une matière riche et éclairante, je veux dire, qui porte aussi, parce que c'est bien d'écrire, mais c'est bien de raconter quelque chose. Et une fois qu'on a cette matière, ben, c'est un plaisir là de se poser des questions d'écriture. Quand j'introduis mon personnage, quel chapitre, comment je rends vivant tel autre personnage. Enfin, du moins, c'est le but, le souhait, le dessein quand on écrit.
Et ce personnage, donc, est-ce qu'il vient des archives ou est-ce que on vous en avait entendu parler? Est-ce que comment est-il venu? Comment a-t-il surgi dans votre livre?
Alors, Giovanni est un personnage largement fantasmé. Ayant cherché d'où venaient les Corotti, j'ai découvert qu'il venait de Pietrasanta en Italie. Et il n'y en a que là. Donc je ne pouvais pas me tromper. Après, on peut en trouver sur l'île de la Maddalena et puis dans le Sartenay, plus tardivement à Bastia. Mais je pense qu'ils ont tous la même origine. Ce sont des artisans, qu'ils soient maçons, qu'ils soient menuisiers, etc. Des constructeurs, on va dire. Et des gens comme Michel-Édouard Nigalion ont eu la gentillesse de chercher pour retrouver ce que mes aïeux là, avaient pu construire dans le Sartenay, comme clocher, etc. Et donc, à partir de là, j'ai légèrement décalé dans le temps pour pouvoir positionner cette histoire exactement en 1829-1830. Et j'ai imaginé, un jeune homme italien qui peut ressembler à ce qu'a été le premier de ma famille débarquant dans le Sartenay. Et j'ai utilisé pas mal de noms d'ailleurs, les Guarnieri, etc., qui ont été les noms de ma famille.
En fin de compte, ce personnage, il a non pas surgi, mais il vous habite depuis pas mal de temps. Quand même, ça vaut...
Oui, les personnages masculins, surtout quand ils portent avec eux une espèce d'aura de... Je ne sais pas comment dire, mais un peu poétique, sont tous plus ou moins, à vrai dire, la figure de mon père. Mais ah. Bon, pour être honnête.
Oui,
Mais
c'est très intéressant. Ouais. Alors, il y a autre chose de très intéressant... C'est qu'à la fin de chaque chapitre, il y a des quatrains. Alors on se demande qui a bien pu écrire ces quatrains. Ils sont magnifiques. Enfin voilà. Alors quel est l'auteur un peu de... C'est vrai que c'est intéressant parce que c'est rare. On s'intéresse un peu à la forme quand même de votre livre. Et j'ai trouvé que ça venait vraiment très très bien, quoi. Ça aère complètement le chapitre, enfin, je veux dire, ça donne une note poétique et forte, quoi.
Alors, c'est un peu compliqué, donc j'avais décidé au début d'utiliser, si vous voulez, un poème très long qui raconte les événements de 1830 à Sartène. C'est un poème dont on trouve... Excusez-moi, deux vers en exergue du livre. Vous voyez, Chiusi sottuti i porti. Et ces vers sont de Francesco Guarnieri. Se trouve que c'est justement le nom aussi de la famille sartenaise qui accueille mon héros et que c'est un nom de ma famille. Et ce poète sartenais, donc. A écrit cette histoire en vers, Storia Sartinesi.
Oui.
Mais j'ai changé d'avis à un moment donné. Donc j'ai gardé les deux vers en exergue. Et puis je me suis dit que ça serait peut-être mieux que soient écrits des vers, si vous voulez, qui correspondent à ce que racontent les chapitres.
Oui.
Ce qui est le cas là,
oui,
vraiment.
Oui, oui.
Donc ils sont vraiment en écho au texte en prose. Et... je les ai attribués à un poète anonyme sartenais.
Oui, mais vous avez bien fait.
Je trouve que ça met une petite touche de mystère.
Ben, c'est bien. Le mystère, ça compte dans un roman d'aventure,
voilà.
Un roman historique. Et là, j'ai un petit quatrain sous les yeux. Même si j'ai cessé de tenir mes êtres et je suis éloigné pour parcourir le monde, au tréfonds de mon âme, je les garde gravés et j'en conserve encore les souvenirs radieux. Oui, on est dans un autre paysage, c'est assez intéressant. On va peut-être conclure, Michel Corotti, avec une petite lecture, un extrait pour donner encore aux lecteurs et aux auditeurs l'envie de lire absolument ce livre, quoi, avec plaisir.
Bien volontiers. Je peux vous lire par exemple le début du chapitre 2, qui est l'arrivée du personnage en Corse. Hein ? Voilà, le chapitre s'appelle « Viaggiare e un'arte ». Il prend plaisir à voir la mer s'ouvrir devant lui. Par beau temps, avec un vent bien établi, il ne faut que quelques heures de navigation à une tartane de 50 tonneaux, dotée de deux mâts et 8 hommes d'équipage, comme la Santa Zita, pour traverser ce bras de mer étroit et longer les îles de la Meloria, de Gorgone, de Capraia. Giovanni se poste sur le pont près de la Lys. Sous ses pieds, il entend s'affairer le coq et le cambusier. dans la cale sombre et silencieuse, dorment caisses ou barriques de contrebande que le patron, un Napolitain installé dans le quartier de la Venezia, ce faubourg de Livourne proche du port et de ses canaux, se propose de faire entrer illégalement en Corse. Sa montre, lourde comme une pierre au creux de la main, Giovanni songe, tout en contemplant, sur le scintillement de l'eau, l'écume soulevée par l'étrave. Son destin est momentanément suspendu entre la terre ferme et l'île. L'été exhale son souffle tiède sur le dos de la mer. Quel apaisement d'entendre chanter le gréement, de n'être plus qu'un œil immense ouvert sur l'horizon. Le soleil levant, lustre de rose l'envers des ailes des goélands. Plus tard, il voit dans de grandes éclaboussures d'eau et de soleil jouer une bande de dauphins. Sa mélancolie s'est évanouie. Rien de sombre ne peut résister à cette glorieuse journée. Il a eu raison de partir. Il n'est pas né pour vivre et mourir au gîte comme un lapin.
C'est donc un véritable aventurier, ce personnage, quelque part.
Oui.
Je crois qu'avec la lecture que vous venez de nous faire, vous nous avez donné l'envie de lire votre livre. Et c'est le but tout de même, c'est l'objectif de notre rencontre aujourd'hui. Merci beaucoup, Michel Corotti.
Merci, André.
Una stonda di spartire e di cultura. Une émission d'André Casabianca.